Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les maladies du spectre de la neuromyélite optique ou NMOSD. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Kumaran Deva. Professeur Deva, bonjour.
Bonjour.
Professeur Deva, vous êtes neuropédiatre, professeur des universités à la faculté de médecine de Paris-Saclay et praticien hospitalier, chef du service de neuropédiatrie à l'hôpital Bicêtre au Kremlin-Bicêtre. Vous coordonnez également le centre de référence des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle. Alors, professeur Deva, ma première question s'adresse évidemment au neuropédiatre. Quels sont les symptômes de la neuromyélite optique particulièrement rencontrés chez l'enfant ?
La neuromyélite optique touche aussi l'enfant. Et quand on regarde l'âge moyen de ces enfants, cela va aux alentours de 10 ans, avec un enfant le plus jeune qui avait donc 2 ans dans notre étude rétrospective avec 7 pays européens et brésiliennes. Les symptômes classiques observés chez l'adulte, tels que la névrite optique et la myélite, restent les plus fréquentes aussi chez l'enfant. La névrite optique est dans la majorité des cas bilatérale. Maintenant, quand on s'intéresse sur les particularités chez l'enfant, il y a les tableaux d'encéphalomyélite aiguë disséminée ou ADEM, qui sont donc des tableaux clinico-radiologiques associant des troubles de la conscience. Ces troubles de la conscience peuvent aller d'une simple fatigabilité, trouble du comportement, jusqu'à un coma qui pourrait nécessiter une hospitalisation en réanimation. Et à l'imagerie cérébrale, on peut voir des lésions qui sont larges, mal limitées, touchant les noyaux gris centraux et prenant le contraste dans 12 à 30% des cas chez ces enfants. Un autre symptôme chez l'enfant qui a été souvent méconnu est le syndrome de l'aréa post-trémoi qui se traduit par des hoquets et des vomissements incoherentibles. Ce syndrome était retrouvé dans 21% des cas de notre étude et une plus grande attention doit être portée sur ces symptômes et en particulier une fois que les diagnostics simples tels que les gastro-entérites ou les troubles digestifs ont été exclus chez ces enfants.
Alors, parmi ces symptômes, certains peuvent, j'imagine, être présents dans d'autres pathologies. Quels sont les principaux diagnostics différentiels à écarter ?
En effet, quand on a donc des maladies rares, et particulièrement chez l'enfant, nous sommes obligés de faire la chasse aux diagnostics différentiels. D'abord, quand on regarde les maladies démyélinisantes, une pathologie est très fréquente et qui peut mimer énormément les NMOSD. C'est particulièrement les maladies démyélinisantes associées aux anticorps anti-MOG, ou avec l'acronyme MOGAD en anglais. Et à côté de cela, nous avons d'autres pathologies inflammatoires systémiques, comme le lupus, le neuro-B7, la maladie de Sjögren, qui peuvent être aussi fréquentes. Un autre pan de maladies auxquelles on fait extrêmement attention chez l'enfant, ce sont donc les maladies métaboliques, et particulièrement les maladies mitochondriales, telles que les neuropathies optiques de Leber, ou les déficits en biotinidase, et particulièrement pour cette dernière, il existe donc des traitements qui pourraient donc améliorer les symptômes que présenterait l'enfant. Nous avons eu aussi des patients avec des syndromes paraneoplasiques ou des patients avec des tumeurs de type lymphome qui ont aussi des présentations qui ont beaucoup mimé la neuromyélite optique.
Et dans ce contexte, comment affirmer le diagnostic de neuromyélite optique chez l'enfant ?
Bien sûr, la positivité de l'anticorps anti-acaporine 4 dans le sérum permet de confirmer le diagnostic. Lorsque le tableau radioclinique est compatible, et une fois qu'on a exclu les diagnostics différentiels que je viens de vous évoquer tout à l'heure, on peut retenir le diagnostic dans les formes séronégatives.
Alors maintenant, si on se projette un petit peu dans l'avenir de ces jeunes patients, quelle est l'évolution de la maladie lorsque l'enfant grandit ?
C'est une maladie qui évolue par poussée et dans notre étude européenne et brésilienne, nous avions observé que 87% ont présenté au moins une récidive avec un délai médian de 4 mois. C'est une maladie qui laisse malheureusement de nombreuses séquelles, particulièrement sur le plan visuel. En effet, 48% des patients ont présenté des séquelles visuelles, dont un tiers avec une acuité visuelle très basse qui pourrait correspondre à une cécité sur le plan ophtalmologique. 20% avaient des troubles moteurs et un quart des patients avaient des difficultés à l'école. L'évolution à long terme des patients dans un travail rétrospectif des patients adultes ayant débuté leur maladie à l'âge pédiatrique semble montrer que ces patients vont avoir un handicap qui peut survenir beaucoup plus tardivement que les formes qui ont débuté à l'âge adulte. D'où l'intérêt de débuter un traitement au plus tôt chez ces patients.
Enfin, dernière question, professeur Deva, en termes de prise en charge, quel est le rôle du neuropédiatre dans l'accompagnement de ces jeunes patients?
Le neuropédiatre va avoir un rôle important à la fois dans le diagnostic, le traitement et l'accompagnement de l'enfant en étroite collaboration avec les neuropédiatres du centre de référence MIRSEM. Les enfants et les adolescents doivent être vus au moins une fois par les neuropédiatres du centre de référence MIRSEM pédiatrique. Le diagnostic et l'annonce de la maladie auprès des parents est quelque chose de très important. Très souvent, quand nous faisons l'annonce diagnostique, les parents souhaitent fréquemment que l'enfant ne soit pas en présence des parents durant la consultation. Il faudrait absolument éviter cela. Il faut absolument que l'enfant soit en présence des parents, même s'il a donc un âge moins de 10 ans, parce que les enfants sont capables de nous écouter et d'entendre les informations que nous donnons. D'où le rôle important du neuropédiatre. Concernant la prise en charge, en fonction des difficultés présentées par l'enfant, cette prise en charge sera adaptée et personnalisée grâce à la bonne connaissance des réseaux de prise en charge de l'handicap de l'enfant. Un autre aspect important dans cette prise en charge est la scolarité. Les enfants qui ont un tableau de NMESD vont avoir aussi besoin d'une aide importante et cette aide peut aller d'un aménagement du temps scolaire avec le tiers temps supplémentaire lorsqu'ils passent donc leurs examens. Ça peut aller aussi à la possibilité que l'enfant qui a des difficultés motrices à prendre l'ascenseur quand il y en a à l'école, tout comme un enfant qui sera donc prioritaire pour se mettre devant le tableau s'il a donc des problèmes visuels. Ces aspects sont très importants à prendre en compte quand il s'agit donc de pathologies chroniques comme la NMOSD.
Eh bien, merci infiniment, professeur Deva, de nous avoir fait mieux connaître la neuromyélite optique chez l'enfant. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la compréhension de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes dédiés à cette maladie. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur la neuromyélite optique où nous ferons le point sur les différents types de prise en charge cette fois. À très vite.